Salut tout le monde, comment ça va là-dedans?
Good evening, ladies and gentlemen.
Ici Paris, Radio Diffusion Française.
Le spectacle commence. 1, 2, 3, 4.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Mac de l'été, le magazine culturel de France Inter. Alors c'est l'un des romans les plus attendus de la rentrée, Innocence d'Eva Ionesco sort demain en librairie. 6 ans après son très beau film My Little Princess avec Isabelle Huppert, Eva Ionesco, qui est notre invitée ce soir, nous entraîne à nouveau dans son enfance. On parlera aussi du festival Écolo Rock, le cabaret vert. Et enfin on aura la grande joie de recevoir Antoine Decaune, et oui, en chair et en os, pour son coup de cœur de l'été.
Nelly Caprielian, le Mac de l'été sur France Inter.
Bonsoir Eva Ionesco.
Bonsoir Nelly.
Vous allez bien?
Très bien.
Alors là, on commence déjà beaucoup à entendre parler d'Innocence, votre premier roman chez Grasset. Alors, on avait l'habitude de vous associer plutôt au cinéma en tant qu'actrice ou réalisatrice. Ça fait quoi d'être du côté des écrivains et de sortir un premier roman?
Bah, ça fait très très bizarre parce que ça fait quand même très longtemps que j'écris, mais en cachette Et j'avoue que je reviens pas moi-même. Enfin, ça fait, c'est très étrange d'avoir fait un livre, quoi.
Là c'est un aboutissement en fait de votre travail, enfin, un travail d'écriture commencé il y a longtemps.
Commencé il y a longtemps parce que moi je voulais parler de mon père en fait avant de faire mon film, et j'avais fait des pistes différentes, et c'était totalement inabouti parce que pour moi c'était un être qui était resté mystérieux, qui était mystérieux, et dont j'ai toujours voulu parler. Et tout d'un coup, avec ce livre. Avec ce livre, ça a pris une... Je l'ai trouvé.
My Way des Sex Pistols. Je dois dire que c'est un peu l'hymne du Mac de l'été sur France Inter.
Nelly Caprielian, le Mac de l'été sur France Inter.
Ah. Hold on, Alicia. Tu partirais ta robe?
Ce serait mieux.
Come on, darling, you'd look beautiful naked in my arms.
Non, je préfère comme ça. Mm-hmm. Allez, déshabille-toi.
Et voilà. Le dos très cambré. Et tu veux pas écarter un peu les jambes?
Non.
Allez, un petit peu les cuisses, Violetta.
Non.
Oh, écarte un petit peu les cuisses.
Non.
Laisse-le te toucher.
Non. Il
faut retirer ça.
Ça suffit.
Mais déshabille-toi.
J'ai pas envie. Arrête. J'ai plus envie de poser. Je suis dégoûtée. T'es trop conne.
My princess, my little princess.
Fuck you!
My Little Princess, Eva Ionesco, on vient d'entendre un extrait donc, de votre premier long métrage en 2011 qui racontait votre enfance, notamment les scènes de pose pour les photos dénudées que votre mère, Irina Ionesco, vous faisait faire quand vous n'étiez qu'une enfant. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par le cinéma, puisque vous nous disiez juste à l'instant que vous aviez commencé à écrire avant? Pourquoi ce désir de film avant éventuellement un livre?
Non, mais j'avais essayé d'écrire et en fait, pour moi, c'était des images. Je voulais commencer par des images et je voulais commencer par faire un film parce que pour moi, c'était plus une histoire qui était... Cette partie-là, en tout cas, de cette jeune fille qui a 12 ans et ce rapport mère-fille, voilà, c'était pour moi un film. Et ce que je raconte là dans mon livre, ça ne peut pas être un film. Voilà, donc parce que j'explore des choses que je ne pouvais pas explorer dans ma mémoire. J'ai 4 ans et même avant, puisque je parle de mon père et d'une rencontre quand il a rencontré ma mère. Ils se sont rencontrés la première fois et tout le fil rouge de mon roman est mon père que j'ai très peu connu, qui ne m'a pas reconnu et qui m'a beaucoup hanté. Et dont ma mère disait qu'il était un terrible espion et que je ne devais pas le retrouver. Et par la suite, que c'était un nazi. Et alors que bon, j'étais très très jeune. Et je l'ai vu quelques fois. Et donc j'ai essayé d'aller vraiment d'imaginer, parce que j'avais eu un petit un livre de souvenirs avec des photos de moi enfant, mais qui étaient des photos avec mon père. Oui, au bord de la mer,
petite.
Voilà, et il me sert beaucoup dans ses bras, et je me suis souvenue de tous ces moments, et c'est un livre que j'ai perdu, que j'ai retrouvé, et j'ai voulu repartir de cet élément que j'avais, que je n'avais pas grand chose de lui à part ça, et qu'il m'a apporté quelques pierres, et j'ai retracé effectivement mon histoire, donc il est effectivement beaucoup question de ma mère, mais beaucoup
dans le
question
livre
de mon
encore,
père que je convoque et quand voilà que je convoque et que dans mon enfance, là des moments terribles, des moments enchantés, des moments magiques, des moments où je peux l'enfance pose des questions parce que dans ce livre j'ai essayé d'être au plus près de ce que j'ai pu être quand j'étais enfant et d'être dans les rapports en fait des rapports qui pour moi ça aurait dû s'appeler une vie violente. Mm-hmm. Ça ne s'est pas appelé une vie violente. Il y a un film qui s'appelle comme ça,
oui, je crois, de Thierry Peretti.
Voilà. Et donc voilà.
Mais alors, c'est intéressant, je trouve, ces rapports cinéma et littérature pour l'artiste que vous êtes. Parce qu'en effet, dans votre film My Little Princess, on se demandait un peu où était le père. Vous sentiez qu'il ne pouvait pas rentrer dans le processus du film puisqu'il en était absent finalement. Enfin, il était absent de ce moment de votre vie puisqu'il me semble que votre mère vous a empêché, on peut le dire, de voir votre père.
Bah, ma mère m'a non seulement empêché de voir mon père, mais elle m'a caché des informations que je n'ai eues que très tardivement. Effectivement, dans ce film, il est l'objet manquant. Et c'est d'aller chercher les erreurs. Il est vraiment il est la personne manquante. Et j'ai trouvé que c'était pas. Il y avait quelque chose qui manquait et effectivement les pères parce qu'il est aussi question du ma mère est issue d'un inceste et donc il est aussi des questions de ça et donc et de la fin de la guerre et donc et des fantômes qui rôdent et qui pourchassent et qui sont quand même toujours très présents dans une famille où on ne peut pas parler
bien sûr.
Certaines choses. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, voilà.
Et... Alors, on va reparler notamment de l'écriture, beaucoup du livre. Moi, j'ai adoré cette écriture qui est à la fois très précise, qui est en même temps parfois un peu onirique, qui mêle le grotesque à la sophistication, qui est élégante, qui est drôle, qui est évidemment émouvante sans jamais tomber dans le pathos. Vous auriez pu, c'était facile, mais non, vous l'avez évité.
Merci.
Comment on restitue justement un fantôme? Vous disiez la guerre, les résidus de la guerre dans la vie, dans votre vie de petite fille. Il y a aussi dans votre écriture un accent modianesque, je trouve, qui est l'enquête. Vous avez fait une enquête, une sorte d'enquête pour retrouver un peu qui était votre père vraiment et qu'est-ce qui s'était passé.
Alors, ouais, bon, j'aime beaucoup Modiano, et c'est vrai que quand j'avais
aussi,
vu La Petite
oui.
Bijou, je me suis reconnue. Donc, voilà, je me suis dit, il y a un peu de La Petite Bijou en moi, parce que c'était le 12e arrondissement, il y a Pigalle, sa mère était actrice, il y avait des cabarets, son père hongrois, et un peu, voilà, comme ça entre deux. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des choses qui m'attiraient beaucoup dans Modiano, et ce sont des lectures qui m'ont beaucoup aidée, parce que Modiano m'a beaucoup aidée, par exemple. Mais bon... ça m'a inspiré. Mais effectivement, excusez-moi Nelly, je ne sais plus quelle est la question que vous m'avez posée.
Non mais c'est bien car on part, moi j'aime bien quand l'interview devient une discussion. Eva Ionesco, non, c'était le côté enquête, parce qu'on sent qu'à un moment donné vous enquêtez aussi pour retrouver des traces. J'imagine que ça a dû être assez, enfin pas très facile.
Mon père ne m'a pas reconnue. Ma mère m'a donné ses papiers, son passeport très tardivement. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et c'est très difficile de partir à la recherche de quelqu'un,
qui
ne vous a pas reconnu,
mm-hmm.
Avec juste un passeport.
Eva Ionesco, je vous propose d'écouter un très vieil ami à vous, le créateur de souliers Christian Louboutin, qu'on a enregistré hier. Il est dans l'avion, je crois, ce soir, et qui nous parle de vous quand vous étiez petite.
Mon premier souvenir avec Eva, c'est de la rencontrer à un vernissage. Qui était dans une galerie, je me rappelle du nom, qui s'appelait la galerie Lop Lop, qui était près de la place de la Contrescarpe. Elle était avec sa mère, moi j'étais avec un ami, photographe, et elle avait donc, parce que je l'ai retrouvée à l'école, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans.
Oui, donc elle était très jeune, elle était comment ?
Très jeune. Elle était exactement comme elle est maintenant, blonde, les cheveux bouclés, le visage très pâle, des talons, une veste, et elle hurlait. Alors ce jour-là, on ne s'est pas parlé, et vous savez, on se considérait, elle, à l'époque, comme vraiment une adulte. Moi, j'avais 2 ans de plus, pas que j'ai toujours d'ailleurs, mais on était vraiment comme des enfants, enfin, on était des enfants, donc on s'est reniflés, mm-hmm. On était les deux personnes les plus jeunes, dans un endroit qui était un vernissage, dans une galerie, etc. Et donc on ne s'est pas parlé, mais dès qu'on s'est retrouvés, donc au lycée, quelques mois après, donc à la rentrée, et tout de suite, alors qu'on s'était jamais parlé, on s'est tout de suite, moi je suis venu vers elle, elle est venue vers moi, et puis on est resté amis depuis ce jour-là. C'était une période, moi, qui me semblait uniquement amusante, je me rendais pas compte qu'elle était plus trouble pour elle que uniquement amusante, mais on était comme tous les adolescents, qu'on avait envie de rigoler, de danser, etc. Elle était probablement beaucoup plus trouble, avec des moments plus compliqués, avec des moments de tristesse, etc., chose que j'avais pas du tout, moi. Mais elle était plus trouble, mais on était, voilà, des adolescents qui sortions assez tôt et tout à fait fiers d'être des petits parmi les grands, mais nous prenons déjà vachement pour des grands, quand même.
Nous prenons vachement pour des grands.
Ben oui.
Eva Ionesco, qu'est-ce que vous pensez? Vous me faisiez au début de Christian Louboutin.
Non, on s'était rencontrés
vous
la première
non.
fois. Non, on suppose qu'on s'est rencontrés la première fois chez Bijan Malam, sur une exposition sur le diable à la galerie Vero Doda.
Ah, ça pose une rencontre, une exposition
voilà,
sur le diable.
Voilà, et Vero Doda, mais c'est dans le lieu, en fait, où maintenant il y a sa
boutique
de chaussures. Oui. Et on s'est rencontrés là 40 ans avant, et puis après il y a eu ses chaussures. Et après, on était déjà au lycée quand on s'est croisés. Enfin, je pense que c'est voilà. Mais bon.
Mais alors justement, c'était marrant quand je vous voyais me faire des signes. Mais non, je n'avais pas 10 ans. Ou non, enfin, ça s'est pas vraiment passé. C'était pas le lieu. Je me disais, c'est quand même. Est-ce que la mémoire est exacte? Comment vous êtes plongé dans votre mémoire et vos souvenirs? Est-ce qu'à un moment donné, on a une tentation d'inventer? Est-ce qu'ils sont vraiment si précis que ça? Comment ça s'est passé?
Alors, une deux choses l'une. Alors, c'est vrai que si vous voulez, le fait d'avoir, quand j'ai travaillé sur mon film, je ne m'ai pas pris simplement l'enfant à 12 ans. J'avais commencé à chercher dans mes souvenirs à antérieurs en me disant, après, je me suis dit que c'était pas possible parce que je pouvais pas faire travailler, je pouvais pas mettre en scène une petite fille de 4 ans à l'école, voilà. Mmh. Et donc c'était des souvenirs que j'avais déjà explorés quand Simon a fait son livre, il m'a posé donc, certaines questions.
Je rappelle Simon Liberati qu'on a reçu vendredi, qui est votre mari et qui a écrit Eva,
absolument,
un livre concernant.
Un livre d'amour.
Un livre d'amour, absolument, grand amour.
Oui, et donc quand Simon a écrit ce livre d'amour, il me posait des questions. Et parfois, je n'étais pas capable de répondre parce que c'était encore d'autres choses. Donc, ça a encore resollicité ma mémoire sur d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'en le cinéma, le cinéma m'a tout de même aidé.
Mm-hmm. Oui. Et puis aussi, donc, le livre de Simon Liberati qui vous a renvoyé aussi aux souvenirs, à la mémoire de certaines périodes.
Mais quand on veut, on peut avoir des souvenirs très très précis. Surtout, ce que je pense, c'est c'est l'intuition qu'on a quand on est enfant. On a des intuitions. Et parfois, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et en cherchant bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses vraies.
Orval Carlos Sibelius, Cœur de verre. En bref, les news du Mac de l'été. Alors l'Association des cinémas indépendants parisiens lance dès demain son offre de cartes prépayées. Il s'agira d'une carte de 5 places à 30 euros ou de 9 à 48 euros. Bref, courez au Brady, à l'Action ou au Majestic Passy, c'est beaucoup moins cher. Un Dorian Gray au féminin, c'est le pari de la musicienne Saint-Vincent qui a choisi d'adapter le chef-d'œuvre d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, avec une femme dans le rôle titre. On ne sait pas encore qui jouera le rôle, mais Tilda Swinton, ce serait pas mal, non ? Cabaret Vert, le festival écolo-rock de Charleville-Mézières, commence ce jeudi et c'est jusqu'au 27 août avec une programmation hyper excitante. Et avec nous pour en parler au téléphone, Julien Sauvage, qui est le directeur et fondateur de Cabaret Vert. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est quoi exactement un festival écolo-rock ?
Un festival écolo-rock, c'est déjà un festival qui s'ancre localement. On essaie de maximiser les retombées économiques et de minimiser les circuits de transport. Donc on travaille essentiellement avec du produit local. On mise un peu tout sur la qualité d'accueil du festivalier et ça fait du bien effectivement au territoire ardennais.
Oh bah c'est super. Et niveau programme, alors, quels sont les groupes les plus importants qui vont se produire ce week-end ?
Bon, on a une petite répartition de têtes d'affiches internationales chaque jour. Je pense bien entendu à Justice, Cypress Hill, Korn qui donnera une date unique en France, London Grammar, Flume, Jane, Franz Ferdinand, j'en passe, à peu près une cinquantaine de groupes sur 4 jours de festivités.
Waouh ! Et côté français, il y a Catherine Ringer ?
Catherine Ringer, effectivement, dimanche, toujours très populaire. C'est 5 euros l'entrée le dimanche. Le but, c'est vraiment la population locale puisse s'accaparer le festival. Donc, toujours un grand nom de la chanson française. Et on a l'immense honneur, effectivement, d'accueillir Catherine Ringer.
Oh bah c'est super. Ouais, ça donne très, très envie. Merci beaucoup, Julien Sauvage. Et je rappelle donc que le festival Cabaret Vert, c'est du 24 au 27 août à Charleville-Mézières.
France Inter, le Mac de l'été. Nelly Capriélian.
Nous sommes toujours en compagnie d'Eva Ionesco, qui publie son premier roman magnifique, Innocence, chez Grasset. Eva, je crois que vous vouliez nous lire un passage d'Innocence. Oui. On vous écoute ?
Oui. Là, on s'est lavé, on s'est peigné, on s'est mis nos robes longues et nos tatanes pour aller dîner dans un de ces restaurants anciens, au carrelage peint et au lustre à demi éteint. On s'est calfeutré dans des banquettes de velours cramoisi. On s'est pris la dernière paella royale de l'été pour deux. Il nous avait autorisé l'oiseau, mais par terre. Mon père était omniprésent et le blanc de l'assiette me rentrait dans l'œil. Son nom qu'on ne venait pas prononcer. Les hommes étaient bannis, surtout lui, violent, saoul, bien plus violent et saoul que la fois où je l'avais vu sur le port de l'Orient, ce matin clair, assis sur la banquette en moleskine, comme sortant d'une gloire éternelle. Et cette dernière fois où il avait poussé Irène au point qu'elle en perdit l'équilibre et m'avait fait monter sur le toit de la maison pour me montrer l'importance du ciel et des étoiles, sa voix décrivant des espaces invisibles. Il m'avait serré dans ses bras et m'avait dit « Ma fille chérie, je t'aime ».
Donc sur votre père. Eva Ionesco, vous avez fini par retrouver des traces donc de votre père. Il y avait aussi cette chose qui planait, on le sent dans votre livre, le fait qu'il ait été espion. Enfin, c'était un personnage très, très mystérieux. Alors, il y a quelque chose qui est en commun avec le livre que publie Simon Liberati, qui s'intitule Les Rameaux Noirs, autour de l'inspiration et lui aussi de son père. C'est que vos deux pères se sont engagés à un moment donné. Enfin, le père de Simon Liberati a essayé de s'engager du côté
de la
UFNSS.
Oui, et votre père s'est engagé dans la UFNSS. Oui, il était dans les croix fléchées, ce que m'a dit mon cousin. Je n'ai pas les papiers de tout ça, malheureusement. Bon, et par contre, non plus de son engagement dans les Unyadi. Dans un bataillon que j'ai cru savoir lequel il était, qui ne s'était pas battu. Voilà, c'était la fin de la guerre. Ils n'avaient pas d'armes, pas d'habits. Ils faisaient des rondes. Pendant qu'on envahissait, Budapest. Et après, il a été rapatrié par la Croix-Rouge. Et des papiers sont après contradictoires. Il y a des papiers qui me disent que j'ai qui me disent qu'il est parti 5 ans après la guerre de la police d'État. Voilà. Et d'autres que mon cousin me dit qu'il est parti directement après. Donc, cependant, laisse à croire des choses puisqu'il était tout de même informaticien. Où aurait-il appris ce métier ? Voilà, donc il y a des choses qui restent irrésolues et moi je n'ai pas les moyens d'engager un détective et malheureusement, donc j'ai cherché comme j'ai pu dans des endroits où.
Mais finalement, en cherchant, ce que vous avez découvert de votre père, dans votre livre aussi, vous dites que vous retrouvez des cartes postales, je crois, ou des lettres de lui, qui ne sont pas ce que vous attendiez.
Non, à la fin, mais ça, oui.
Voilà, mais est-ce que ça a été plutôt une découverte décevante ou pas. C'est-à-dire, j'imagine, vous avez beaucoup idéalisé ce père.
Bon, rien n'est décevant. C'est une découverte. À partir du moment où c'est quand même quelque chose qui vous arrive, bon, c'était déjà bien. J'avais été contente de recevoir du courrier des années après de sa part, parce que je m'écrivais beaucoup dans le livre, et c'était tout à la fin du livre. J'ai pas tellement fini mon livre et j'ai reçu des lettres de lui.
Oui. Oui,
c'est parce que mon cousin quand même m'a envoyé ces lettres 40 ans plus tard.
Mm-hmm. C'est comme si quasiment
l'art... même plus, 42, oui.
La littérature appelait les disparus, quoi. Les mystères. Et les mystères non pas se résolvent, mais à un moment donné vous parle.
Oui, je suis allée sur sa tombe puisque j'ai eu l'adresse finalement d'une femme avec qui il y avait une relation, qui était une femme comme ça, qui était très... qu'il était soi-disant dans des choses un petit peu ésotériques, qui a voulu que j'aille sur ta tombe pour l'enterrer parce qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. Donc avec Simon, on est allé sur sa tombe accompagné de Simon. Oui. Effectivement, Simon a écrit Le Rameau Noir. Je pense qu'il en parle mieux que moi, c'est un livre, pas un essai sur la police, c'est un roman. Et il est effectivement question de son père, mais moi, il ne m'a pas dit tout de suite qu'il parlait de son père. Donc c'est vrai.
Comment ça s'est passé entre vous quand lui écrivait en secret
père? Simon me fait lire des choses de temps en temps. Et lui, il ne me fait pas lire. Il ne me fait pas lire avant la fin. Mais il a le droit, mais il ne me fait pas lire. Voilà.
Bon, j'espère qu'il écoute ce soir.
Oui, écoute, ouais. Simon, tu ne me fais pas lire. Tu ne me fais pas lire, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai compris. J'ai lu un truc, je me suis dit, mais tu parles de ton père. Parce que du coup, je suis passée comme ça devant son ordinateur. Il m'a dit, oui, quand même. Et donc, voilà. Je suis tardivement, quoi. Donc,
alors, Eva Ionesco, on ne va pas la jouer surprise, mais on a au téléphone avec nous Paquita Paquin, la journaliste, qui est aussi une amie à vous, qui vous connaît depuis très longtemps. Est-ce que Paquita Paquin est avec nous? Allô?
Absolument.
Ah, Paquita, bonjour Paquita.
Bonjour Eva. Bonjour.
Paquita Paquin, vous avez lu le livre d'Eva Ionesco, Innocence?
Ah oui, je l'ai lu, je l'ai trouvé merveilleux. Non, c'est un très beau livre.
Et vous l'avez reconnu, j'imagine, dans son livre?
Oui, absolument. Mais enfin, il y avait des tas de choses que je ne connaissais pas, justement. Cette quête du père à partir de petits souvenirs assez infimes, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et puis, même à travers la vie extraordinaire qu'elle a, la façon de le raconter est toujours juste. Et ça c'est très...
Ah bah merci.
Paquita Paquin, vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Eva?
Pas exactement, mais un de nos souvenirs communs.
C'était pas au Royal Mont-des-Tours, hein? Au Royal Mont-des-Tours, non? C'était pas au Royal Mont-des-Tours, ou elle?
Suspense plus intense.
Royal Mont-des-Tours, moi je me rappelle du striptease des mineurs à la main.
Ah oui, c'était peut-être ça, oui, bien sûr.
Et elle était comment, Eva, Paquita, vous vous souvenez?
Ravissante.
Bon, elle était toujours
blonde. Les cheveux bouclés avec une petite culotte à élastique blanche.
Oui, c'est vrai que j'en avais pas
bien droit à la main bleue. Merci mille fois, Paquita Paquin, d'avoir été avec nous.
Eh bien, de rien, c'est un plaisir.
Merci, Paquita, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Alors, une petite culotte blanche. Alors, c'est vrai que y a beaucoup les vêtements qui reviennent dans votre livre. Il y a aussi, donc, votre mère est très présente. Elle vous emmène à un moment donné à Londres. Vous allez dévaliser la boutique Biba.
Oui.
Et moi, je me demandais, le vêtement, Eva Ionesco, est-ce que ça a été, enfin, ce goût du vêtement, de l'apparat, presque du déguisement, vous avez hérité ça justement des séances de photos que vous faisiez avec votre mère, ou c'est au contraire, et là pardon de faire mon docteur Freud, ou c'est au contraire un goût de s'habiller pour pouvoir se rhabiller quand on a été dénudé?
Alors c'est deux choses, je pense que j'ai toujours été coquette. J'ai toujours aimé être coquette, et que dès l'enfant, malgré un vêtement ou pas vêtement, j'ai toujours aimé être coquette. Il se trouvait que on cherchait beaucoup des vêtements avec ma mère, pour les séances photos qu'elle m'obligeait à défaire, et que le fait qu'elle me les enlève, qu'elle me les défasse, m'a fait encore plus avoir envie de céder à certains vêtements, puisque je ne les avais pas, ils étaient enfermés dans une penderie, où elle cachait, entre autres, choses que les vêtements, des éléments qui appartenaient à mon père, parce que et des tas de choses, voilà, que je ne citerai pas ici. Et donc, effectivement, le goût du vêtement m'est venu très tôt, et je l'ai toujours gardé. Et c'est vrai que je reviens de plusieurs fois sur ce magasin Biba, parce qu'il y avait le Big Biba, qui était à la fin avec le ballroom dancing et toutes ces choses incroyables, art déco 30 et des vêtements pour enfants comme pour les grandes personnes et des produits alimentaires noirs Biba et le petit Biba à la devanture toute noire. Et c'était magnifique.
Mais vous aviez 7 ans, 6 ans.
Alors
6
là, ans. Ça, c'est ça.
Ah bah ça, je me rappelle dans votre livre.
Mais alors les mémoires des messages.
Ah bah ça vous lisez dans votre livre, je m'en rappelle.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait.
C'est imprimé noir sur blanc. Alors dans le film My Little Princess, on a beaucoup dit qu'il avait des tonalités de conte noir, hein, une forme d'Alice au pays des merveilles ou plutôt des cauchemars, je ne sais pas. Pour ce livre Innocence, Eva, vous avez procédé comment pour l'écriture? Quel a été votre dispositif? Est-ce que vous en aviez un? Comment vous avez un peu réfléchi? Quelle serait l'écriture?
Bon, je sais qu'à la lettrerie, il y avait quelque chose d'un coup qui était un peu avec la mère, un parcours un petit peu somnambulique, qui m'a pris très tôt. Et au début, j'avais pas commencé à écrire j'avais écrit elle, la petite Eva. Et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça fonctionne. Enfin, voilà, j'avais quand même écrit beaucoup. Puis j'ai écrit beaucoup de choses qui sont pas dans ce livre aussi. Et en fait, c'était des épisodes.
Oui, c'est une suite d'épisodes.
Des épisodes. Je peux pas vous dire, c'était des épisodes et je ne savais pas toujours où j'allais, je me suis surprise
Alors je rappelle qu'à propos de mode avec Simon Liberati, vous écrivez dans la NRF, vous tenez une chronique qui est à la fois très belle, très drôle, sur la mode.
Oui, la dernière mode avec Simon.
La dernière mode où lui, il joue un peu le rôle de maître de cérémonie, fait une introduction, ensuite c'est vous Eva qui écrivez. Hein,
oui, là ça se passe maintenant, enfin voilà, il y a des souvenirs mais...
Alors, le titre est quand même assez excellent, je veux dire, Innocence. Est-ce que c'est ironique? Est-ce que c'est ça? Pourquoi vous avez choisi ce titre? Ou pas? Enfin, pourquoi est-ce que...
J'ai choisi ce titre parce que c'est pas forcément la perte de l'innocence, mais il y a quelque chose d'innocent quand on... Voilà, c'était... tout ça a été fait... D'abord parce que ma mère disait toujours « elle est innocente ».
Oui, enfin, elle avait l'air d'aimer.
Elle est innocente. Donc c'est innocence parce que c'est un peu la part de l'innocence aussi, des moments dont on perd et dont on s'aperçoit de la dureté des choses. Et donc, comme ça revient souvent, mais pas simplement par les rapports de la mère. Enfin, je veux dire, il y a des rapports à la vie, aux autres.
Voilà,
j'ai trouvé juste. Et assez beau de lui donner ce titre.
Mais vous pensez que vous allez. Le passé que vous avez eu avec votre mère, qui est quand même assez singulier, qui est quand même dur, même si vous tombez encore, comme je le disais, jamais dans le pathos avec le livre ni avec le film.
Parce qu'il y a plein d'autres personnages, Jonathan, il y a des enfants qu'elle rencontre,
il y a
Andrew, il y a Matthew, il y a
des rencontres.
Il y a quand même beaucoup de rencontres, il y a San Francisco, il y a la grand-mère.
Il y a la grand-mère qu'on trouve qui était dans le film.
Il y a la grand-mère, puis la grand-mère américaine. Enfin bon, il y a quand même des personnages, il y a Gabor, il y a Pinson, enfin il y a quand même énormément de personnages.
Mais justement, on a l'impression qu'ils sont un peu des personnages de contes. De contes pour enfants, pour adultes, enfants, enfin je sais pas comment le dire, il y a un côté un peu, encore une fois, que je trouve assez onirique, tout en étant extrêmement réaliste. C'était quelque chose que vous vouliez?
Pas peut-être que...
Pas particulièrement
en pensant, pas aussi, parce que oui, mais c'est peut-être aussi qu'ils ont pris leur place, comme en les décrivant,
Ils se sont imposés.
Ils se sont imposés dans cette chose, et puis il y avait des choses effectivement qui me... Voilà, Londres, évidemment Dickens, donc...
Oui, donc personnage.
Oui, enfin voilà. C'est vrai que quand on écrit, on lit aussi des choses et.
Et ça inspire.
Oui.
Crazy city's dim light, and the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love, smoking ghosts.
pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street, holding hands on the subway, and the smoking spirits, they will take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer.
Smoke of Dreams, c'était Thurston Moore.
France Inter, Nelly Capriélian.
Nous sommes toujours en compagnie d'Evan Ionesco pour la sortie de son premier roman, le très beau Innocence chez Grasset. Alors, Eva Ionesco, vous le disiez à l'instant, Innocence est aussi une galerie de portraits, oui, de personnages, et c'est aussi le portrait d'une époque, les années 70, extrêmement permissive ou trop permissive, oui, à Saint-Germain. Et qui permettent finalement qu'une mère fasse des photos dénudées de sa petite fille, qui les achète, qui vous étiez comment vous avez voulu parler de cette époque dans Innocence?
Moi, je me suis l'époque, et c'est l'époque on la traverse, donc on est, moi je, à l'époque on la traverse, et j'ai, voilà, donc c'est cette gamine qui traverse l'époque et puis qui est embarquée avec cette mère qui est plutôt perverse que voilà, et donc ça on retient plus ça que l'époque permissive,
oui, plus la mère,
voilà,
que,
donc
oui,
ça, que ça c'est une réalité, donc voilà, c'est une. Et mais c'est vrai qu'il y a Saint-Germain, il y a les filles de la coupole,
il y a une éditrice rousse, on suppose que c'est Régine Desforges.
C'est Régine Desforges, ouais, absolument. Sûr, ouais. Il y a Rob Grier, ouais, il y a Mandiargues, il y a des tas d'enfants aussi qui sont à l'école. Voilà, donc oui. Enfin, c'est plutôt un être qu'on rencontre. Voilà, cette gamine, elle ne pensait pas que j'allais pouvoir. À un moment donné, voir autre chose que l'espace photographique. Malheureusement, j'avais des yeux pour voir et, ouais, pour regarder ce qui se passait.
Mm-hmm. Oui, donc vous avez bien vu.
On voit.
Oui, vous avez bien vu ce qui,
voilà,
se passait.
Voilà, donc on voit ce que, ouais, j'ai rendu, ce que je voyais.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, avec votre mère, là, vous en êtes où? Vous étiez en procès à un moment donné?
Non, c'est... je ne la vois plus, moi.
Oui.
Voilà, okay. Je ne parle pas.
Alors, on ne va pas la voir au téléphone, je vous rassure tout de suite. En revanche, on a interviewé cet après-midi, on l'a enregistré, votre amie, une amie de jeunesse, Farida Khelfa, la mannequin et réalisatrice. Je vous propose, Eva Ionesco, de l'écouter.
Je ne me souviens pas de la première fois exactement où je l'ai rencontrée, mais je me souviens de ses apparitions au palace, toujours extrêmement bien habillée, maquillée, coiffée. Elle avait un style tout à fait particulier, très très personnel. Et elle avait vraiment un grand sens de la mode et du style, puisque c'était son style en fait. C'est pas qu'elle suivait la mode, mais on sentait que pour elle, le vêtement était extrêmement important.
Et elle était comment, enfin, dans son attitude, même par la suite Oui, je vous entends rire.
Dans son attitude, elle était Eva. C'est-à-dire assez extrême et je sais pas quoi, elle pouvait passer d'un état à un autre assez rapidement et voilà quoi. Donc, elle était Eva.
Et vous avez lu Innocence, son premier roman,
ouais,
là, qui sort.
Lu, ouais.
Vous saviez tout ça à l'époque ou vous avez découvert?
Non, je savais pas du tout. Je savais qu'elle avait un rapport extrêmement dévorant avec sa mère, mais je savais pas tous ces détails-là. J'ai découvert beaucoup de choses et je comprends un peu mieux les choses aujourd'hui après avoir lu son roman. Et c'est très touchant, c'est très bouleversant, c'est très flippant aussi. Ouais. Enfin, toutes les sensations vont avec la lecture de ce roman. Mais je suis assez impressionnée par son écriture et puis la façon dans laquelle elle va dans les choses, dans la profondeur des choses. C'est assez beau, assez fort et assez flippant, encore une fois. Donc,
merci beaucoup, Farida. À très bientôt, hein, j'espère.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Assez flippant.
C'est voilà bien ce qu'elle dit, conclut. Elle a bien parlé, hein.
Bah, la littérature, c'est fait pour faire flipper aussi. Enfin, en tout cas, pour faire penser et être un peu remué.
Oui, c'est flippant, oui.
Alors, Farida Khelfa, elle parlait du palace, c'est là que vous la rencontrez?
Oui, c'est vrai, on s'est rencontrés, moi je crois qu'on s'est rencontrés au palace. Et à propos, en fait, je suis en préparation d'un film, un second film avec Isabelle Huppert.
Mais qui était très bien dans le rôle de Irina
Ionesco.
Oui, mais
c'est pas le même personnage, elle change. Je vous le sais.
Elle change, d'accord.
C'est pas du tout le même personnage. Melville Poupeau. Galatea Belloughi et Luca Ionesco, mon fils.
Ah bah génial, votre fils, oui, voilà. Qui est beau comme un dieu.
Et c'est une histoire de jeunesse, et c'est une première histoire d'amour qui se finit, voilà, qui se termine. Voilà.
Qui se termine, et donc ça se passe au palace.
Oui, c'est la toile de fond, enfin voilà, ça commence au palace.
Mais est-ce que c'est une forme de suite à My Little Princess?
Oui. Oui. C'est une forme de suite. C'est une forme de suite à My Little Princess, mais c'est une forme de suite à My Little Princess avec quelque chose qui est beaucoup plus romancé à l'intérieur, puisque moi je suis allée vers Simon Liberati quand j'avais lu Anthologie des apparitions. Je suis d'abord tombée amoureuse du livre avant de lire de son premier roman où il est question des jeunes filles qui perdent leur grâce dans la nuit. Et moi à ce moment-là j'étais en rupture d'écriture, j'arrivais pas du tout et on s'est rencontrés et on a écrit ce scénario et les personnages qui sont ceux de Lucille et Hubert sont des personnages assez qu'on a. Voilà, qui sont des personnages de l'époque, mais il y a quand même une grande part de choses romancées à l'intérieur. C'est pas un film totalement autobiographique, il est très inspiré. Mais
après, vous pensez que vous publierez un livre sur la même période, Les années Palace, moins fiction, l'adolescence pendant que le palace battait son plein.
Peut-être.
Vous avez envie de continuer à écrire?
Oui.
Ouais. Vous avez commencé autre chose, Eva Ionesco?
Oui.
Bon, ben, écoutez, on l'attend avec impatience. Mais là, le film, vous le commencez en novembre.
En novembre.
Ben, ça, c'est génial.
C'est déjà en préparation.
Alors, Simon Liberati, donc, Les Rameaux Noirs, son livre qui sort au même moment, parle de l'inspiration. Il a donc écrit un livre vous concernant et concernant l'amour. Eva, c'était chez Stock. On a tendance à dire, il y a ce cliché, que la femme est toujours la muse de l'écrivain ou de l'artiste. Est-ce que Simon Liberati, c'est votre muse?
Oui, c'est pas ma muse, mais bon. Mais c'est vrai que je n'aurais pas écrit si j'étais pas au premier étage, je m'étais pas installée, enfin si je n'avais pas épousé, si j'étais pas. Je n'aurais.
C'est vrai.
Parce que j'ai pas. Il m'a donné beaucoup de force et puis ces choses se sont passées comme ça. C'est vrai.
C'est lui votre muse. Bon, bah écoutez, c'est génial.
Non,
moi,
mais en tout cas, il m'a inspiré, il me donne la force d'écrire, donc quelque part, il m'inspire.
Et je voulais savoir, le prochain livre, vous voulez pas du tout en parler?
Non.
Ah bon?
Non, parce que quand c'est pas fini. Quand c'est à peine commencé, pas terminé, on sait pas où on va.
Est-ce que ça a été douloureux là, de se replonger dans toute cette histoire de votre enfance,
ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour moi. D'ailleurs, c'était difficile, oui. D'ailleurs, c'est vrai que voilà, on habite dans les bois, et donc heureusement qu'on a les bois pour aller courir dans les bois et sortir en courant dans les bois, parce que j'ai plein de c'est assez violent. On s'est beaucoup disputé avec Simon.
Oui, tous les deux plongés dans.
Oui.
Dans l'enfance et le père. Et,
oui.
Est-ce que vous pensez que vous en avez fini avec cette histoire? Est-ce qu'on peut en finir avec cette enfance comme ça, un peu abusée par l'image, par un parent, par...
Je ne sais pas si je continue à écrire. Peut-être que ça sera toujours un personnage qui sera quand même là, mais moins là, mais que le personnage néanmoins reviendra tout de même. Ça, on ne sait pas.
Bon, écoutez, on attend de voir la suite. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par Innocence et Vaionesco.
Merci.
Le Mac de l'été sur France Inter.
C'est le moment maintenant du coup de cœur de l'été et Antoine Decaune, en chair en os, nous a rejoint. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Nelly.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Alors, retour de vacances.
Vous êtes insolemment bronzé.
Insolemment.
C'est un scandale alors que je suis blême. Alors on peut peut-être en profiter pour annoncer votre émission sur France Inter.
Oui, qui démarre lundi prochain, le 28 à 16h, une émission quotidienne qui s'appelle Pop Pop Pop.
Et qui aura comme sujet
donc et qui aura pour sujet la pop, la culture pop d'une manière générale, les bouquins, le cinéma, la musique, les réseaux sociaux.
Et la culture pop, c'est quoi exactement?
Je ne sais pas, je vais essayer de le définir dès lundi. C'est toute cette culture de l'après-guerre, considérée comme une sous-culture, une contre-culture. Je ne sais pas, c'est des définitions...
L'underground, comme on dit.
Ouais, enfin disons, c'est tout ce qui n'est pas mainstream. Quoi.
Les séries, ça rentre là-dedans?
Oui, ça rentre là-dedans.
Génial, génial.
Les mauvaises séries, oui.
Et même les mauvaises séries. Antoine Decaune, quel est votre coup de cœur donc, pour l'été?
J'ai droit à deux?
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait, j'ai commencé les vacances en lisant un livre qui s'appelle « Jour barbare » de William Finnegan, qui est un journaliste du New Yorker et qui est un grand surfeur devant l'éternel.
Oui, qui est très beau ce livre, bien sûr.
Magnifique, absolument magnifique. C'est un livre sur le surf, mais quand on dit ça, on ne dit rien. C'est un livre qui parle du surf, mais du surf comme d'une approche de l'existence, comme d'une manière de surfer dans la vie, pour dire les choses simplement, avec des pages absolument sublimes. Littéralement sublime sur l'expérience que c'est que d'être sur l'eau, dans l'eau, immergé, à moitié noyé,
à courir après une vague,
comme Acap pouvait le faire avec Moby Dick. Donc c'est un livre sublime que je recommande, même en automne.
Vous en aviez un autre?
Oui, j'en ai un deuxième, un livre de Nathan Hill. C'est un premier roman qui sort ces jours-ci. C'est un jeune écrivain américain. Ça lui a pris une dizaine d'années pour écrire ça. Et c'est une histoire... assez complexe. Johnny Irving en a très très bien parlé, puisque j'ai peu de temps pour le faire, en disant que c'était un des grands écrivains émergents aux États-Unis aujourd'hui.
Et je vous le confirme, je l'ai lu là pour cette rentrée. C'est un très très beau livre.
C'est une fresque très drôle aussi.
Très drôle.
J'insiste là-dessus
avec
parce
des scènes d'anthologie.
Oui, absolument.
Et Vaionesco, et vous, votre coup de cœur?
Christian Dior,
Dior, l'exposition.
L'exposition Christian Dior.
Qui est au Musée des Arts Déco à Paris.
Oui.
Bon, génial, ça c'est excellent choix. Merci beaucoup, Eva Ionesco. Je rappelle donc que votre roman Innocence paraît demain et que vous serez sur la scène de la Maison de la Poésie le 15 septembre. Et merci beaucoup Antoine Decaune. Good luck pour
merci
Pop Pop Pop. En tout cas, moi je suis votre fan, je suis la présidente de votre fan club. Je vous écouterai.
Merci.